France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Les récentes coupures de câbles sous-marins en mer Baltique, l'exercice militaire chinois aux abords de Taïwan ou encore le recours par la Russie à une flotte fantôme pour pratiquer de l'espionnage remettent les mers au premier plan des tensions géopolitiques et de la guerre hybride. Pourtant, cette stratégie hybride, désormais bien identifiée sur notre sol, reste encore largement méconnue dans les océans. Alors, la guerre hybride a-t-elle supplanté la guerre navale classique? Quelles sont les zones du globe les plus touchées, les plus concernées? Sous quelle forme s'exercent ces attaques non revendiquées, souvent opaques, difficilement attribuables? Deux spécialistes, deux experts pour nous éclairer ce soir. Julia Tass, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche à l'IRIS, responsable du programme Océan. À vos côtés ou face à vous, nous verrons Cyril Coutancet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du département recherche du Centre d'études stratégiques de la Marine nationale. Vous avez notamment publié en 2022 l'ouvrage intitulé « Histoire des empires maritimes ». C'est chez CNRS Éditions. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
J'espère que tout le monde reconnaît maintenant qu'il y a une guerre hybride. Un jour, c'est la Pologne, le jour suivant, c'est le Danemark, et la semaine prochaine, ce sera probablement ailleurs.
Nous constatons beaucoup trop souvent des dommages causés à nos infrastructures maritimes critiques dans la mer Baltique.
En mer Noire, évidemment, il y a un risque élevé. Il y a le transfert des carburants entre des navires qui sont, disons, légitimes, et le navire de la flotte fantôme de Poutine.
Nous sommes dans un moment de confrontation permanente avec la Russie qui utilise en quelque sorte toute la palette de jeux de l'hybridité pour venir nous bousculer.
Un incident peut être une erreur. Deux incidents peuvent être une coïncidence. Mais trois, cinq, dix. Il s'agit d'une campagne en zone grise, délibérée et ciblée contre l'Europe.
Alors on va définir les termes, hein. Bien sûr, guerre hybride maritime, mais avant cela, Julia Tass, est-ce que la mer, les océans, on l'entend en creux dans l'ensemble de ces discours, de ces témoignages, est-ce que la mer devient un espace absolument stratégique dans les guerres contemporaines, et surtout pour comprendre ces guerres contemporaines et ces conflits?
Absolument. La mer a longtemps été un peu à la périphérie, je pense, des considérations géopolitiques. On considérait que parce que c'est un milieu qui est difficile d'accès et sur lesquels les acteurs sont en nombre assez limité, parce que finalement il faut avoir les moyens d'opérer en mer, on pouvait suivre ce qui se passait de manière moins précise et puis avec moins de moyens que ce qui se passait sur Terre. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que d'une part, du fait de la mondialisation, on a pu opérer en mer de manière beaucoup plus large. Donc il y a beaucoup de gens qui œuvrent sur et dans l'eau. Et d'autre part, parce que finalement, les rivalités géopolitiques sont croissantes. Et donc, on investit toujours plus loin, toujours plus difficile d'accès. Et il y a de nombreux appétits géopolitiques et économiques en mer.
Est-ce qu'une autre façon de le dire, après tout, la guerre suit les intérêts? Et parce que les intérêts en mer, les intérêts au sein des océans vont croissant pour les États, eh bien, la guerre, petit à petit, se déplace dans ces espaces?
En fait, il y a toujours eu, peut-être pas toujours, mais en tout cas ça fait très longtemps qu'il y a des conflictualités en mer. Et ces conflictualités maritimes étaient associées à des enjeux qui sont tout à fait actuels. L'approvisionnement, notamment. Mmh. Longtemps, les marines de guerre ont eu pour mission, entre autres, de protéger des circuits et des grands canaux d'approvisionnement stratégiques. Donc, la question de la conflictualité en mer, elle n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est peut-être notre capacité à y opérer et donc la quantité de navires, de drones, d'appareils que l'on a en mer. Et puis, finalement aussi, on découvre tout ce qu'on peut y faire. Peut-être que c'est parce qu'on comprend mieux ce qui s'y passe, qu'on visualise mieux l'ampleur des opérations possibles. C'est un peu comme en médecine, vous avez le diagnostic qui s'affine, donc on a l'impression que tout d'un coup, il y a des gens qui sont plus malades. Mais non, c'est peut-être parce que le diagnostic s'est affiné.
Est-ce que vous êtes raccord, Cyril Coutancet, dans le fond, on peut dire qu'on entre peu à peu dans une ère nouvelle, une phase nouvelle, parce que notre capacité à opérer en mer augmente et même se transforme?
Alors il y a deux choses en fait, parce qu'effectivement ce que soulignait Julia, c'est que la mer a toujours été un espace de conflit, de vulnérabilité. Hein. Si on prend l'Empire romain était ultra dépendant pour son approvisionnement en blé de la mer, parce que qui venait d'Égypte, de Sicile, etc.
Et simplement parce que la mer était au centre de l'Empire.
Ça a toujours existé. La caractéristique par contre à notre époque avec la mondialisation, c'est que on a de plus en plus de vulnérabilité. On a 90% du commerce maritime, du commerce qui se fait par la mer, donc on est dépendant de ces porte-conteneurs qui arrivent, on est dépendant de la mer pour les hydrocarbures, on est dépendant de la mer en partie pour les énergies marines renouvelables.
Pour
les flux d'informations, donc il y a de plus en plus de vulnérabilité. Et en parallèle, on a des moyens d'action et des acteurs qui sont de plus en plus nombreux. Et donc ces vulnérabilités grandissantes avec des conflits aussi, une conflictualité qui est de plus en plus présente. En réalité, ça remonte à un petit moment. En Europe, on a l'impression que c'est arrivé avec la guerre en Ukraine en 2022. On peut voir le basculement en réalité à compter de 2008, de la crise financière, où là il y a des choses qui se passent en mer de Chine méridionale, dans le détroit de Taïwan, en Méditerranée ensuite un petit peu aussi avec la Turquie, etc. Donc, vulnérabilité grandissante, et puis, à côté de ça, des conflits grandissants aussi.
Que pensez-vous, Cyril Coutançais, comme expert militaire, expert des affaires maritimes, par ailleurs, de cette expression que l'on lit, que l'on entrevoit énormément, de guerre hybride? On sait qu'elle ne fait pas consensus. Est-ce que néanmoins le concept est opérant, selon vous? Et après, on parlera évidemment de guerre hybride maritime, mais commençons loin, commençons large. Guerre hybride, d'abord.
En fait, alors on a renommé quelque chose qui existe depuis toujours, qui est de la guerre informelle. C'est-à-dire qu'en fait, la guerre informelle ou la guerre hybride, elle a toujours existé. Si on se reporte dans l'histoire, hein, à l'époque de Philippe II, par exemple, la marine espagnole est puissante, l'or qui vient des Amériques est indispensable pour elle. Comment vont agir la France et l'Angleterre pour essayer de...
Contre
l'Espagne, pour essayer de fragiliser l'Espagne. Elles vont pas agir en direct, elles vont pas déclarer la guerre à l'Espagne, elles vont agir par des corsaires, des pirates, et autres. Bon, mais c'est de la guerre informelle, c'est de la guerre hybride. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'au lieu d'entrer en guerre directement entre deux États, on va agir soit par des acteurs non étatiques, les fameux proxy, comme on dit, les défaunés, soit par des actions qui pourront être très difficilement attribuables à un État. L'exemple typique, c'est coupure de cap sous-marin, de prouver que cette coupure a été effectuée par un État et que c'est pas issu d'un simple accident, d'un pêcheur qui a remonté son ancre, c'est très compliqué. Donc en fait, c'est un modèle qui a toujours existé et qui ne fait que reprendre de l'actualité parce qu'on a des conflits.
Mais donc c'est de la guerre, Julia Tass, la guerre hybride, ou bien c'est la guerre qui sert à éviter d'entrer véritablement en guerre?
Là, ça veut dire qu'on s'attaque à la question de la définition de la guerre.
Mmh.
Et finalement...
Au-delà de la guerre hybride, donc.
Au-delà de la guerre hybride, puisque votre question, c'est de savoir si la guerre hybride est une guerre. Donc, la question, c'est de définir la guerre. Je pense que si vous posez la question, c'est parce qu'on est ancré dans un narratif européen de sortie de la guerre après les années 90. On avait l'impression qu'on n'allait plus faire la guerre, parce que justement on allait développer des interdépendances économiques et que ça allait nous permettre de dépasser la conflictualité. En réalité, elle a jamais cessé. Cyril parlait d'opérations depuis 2008, mais il y a toujours eu cette ambiguïté. Et la guerre hybride, c'est l'ambiguïté. Donc c'est aussi une manière de faire la guerre qui... Donc évite effectivement une confrontation frontale entre deux États, mais c'est aussi une manière de faire la guerre qui profite à des acteurs non étatiques, qui vont pas, eux, être capables d'entrer dans un conflit frontal, et donc qui vont utiliser des moyens de guérilla, etc., pour maintenir ça sous un seuil de conflictualité. La guerre hybride, en réalité, bon, il y a plusieurs définitions, mais une manière de la définir, c'est à la fois d'utiliser la guerre informelle, en fait, plusieurs moyens de faire la guerre, avec des moyens formels, peut-être des moyens formels, mais ça va pas être uniquement sur le champ de bataille et avec deux armées étatiques. Donc ça profite à différents acteurs, ça profite aux États. Pour moi,
ça profite aux États, pourquoi? Parce que c'est de la guerre à moindre coût. Au fond, c'est une forme d'action qui coûte peu cher et qui est difficilement attribuable, et donc ça permet de mener des actions invisibles.
D'une part, et puis d'autre part, d'un point de vue géopolitique, déclarer la guerre, c'est pas du tout anodin. Par exemple, quand vous prenez le cas de la Russie a énormément de proxys, et donc on peut toujours dire...
Les proxys, c'est des intermédiaires, disons. Hein.
Des intermédiaires, exactement, qui vous permettent de ne pas attribuer certaines actions. Donc vous pouvez dire, en tant que gouvernement, c'est pas moi, je ne contrôle pas ces groupes, c'est pas une instruction gouvernementale, donc je ne rentre pas dans une logique confrontationnelle avec un autre État. On peut continuer à discuter d'un point de vue diplomatique, etc. Et ça me permet, moi, de ne pas avoir à rendre compte d'une action offensive auprès du reste de la communauté internationale, puisqu'on a énormément encadré le droit de la guerre. Donc là, ça me permet d'être hors de ces discussions qui pourraient être éventuellement lancées sur le respect ou non du droit de la guerre, etc.
Bon, alors éclairez-nous, Cyril Coutançais, sur la mer, dans les océans, aujourd'hui, quelle forme concrète elle prend, cette guerre hybride, pour qu'on puisse là aussi se représenter les choses ?
Pour simplifier, elle peut revêtir deux visages. Via un acteur non étatique, l'exemple typique, c'est les outils en mer Rouge qui vont envoyer missiles, drones sur des porte-conteneurs qui passent par les mers Rouges.
Outils, donc proxy des Iraniens en l'occurrence.
Voilà, exactement, donc on a un acteur identifié pour le coup. Et de l'autre côté, on peut avoir des actions non attribuables. Donc typiquement, coupure de câbles en fibre optique, coupure de câbles électriques, où c'est extrêmement compliqué de dire, bah tiens, c'est tel pays qui est à l'origine de ça. Puisqu'en fait, des coupures de câbles sous-marins, on en a depuis que les câbles existent, sous forme accidentelle, un pêcheur qui va remonter une ancre et donc le câble est coupé. Donc voilà, c'est un peu ces deux choses-là, acteur non étatique ou action non attribuable. Pour faire simple.
Un exemple très concret que je vous demanderai de commenter et que l'on va entendre, le Fitberg cargo sous pavillon de Saint-Vincent-Grenadines, soupçonné d'avoir saboté des câbles sous-marins reliant Helsinki et l'Estonie à travers le golfe de la Finlande. C'était en 2025, l'an dernier.
Quatre câbles ont été endommagés. Nous avons été capables de maîtriser la situation et de localiser le bateau en question.
En ce qui concerne les crimes présumés dans cette affaire, nous soupçonnons pour l'instant une perturbation aggravée des télécommunications, ainsi qu'un sabotage.
La coopération entre l'Estonie et la Finlande concernant les navires et les infrastructures se déroule sans accroc. Nous l'avons déjà fait plusieurs fois.
Les membres de l'OTAN passent maintenant à des actions contre la liberté de navigation. Pas moins. C'est exactement ainsi qu'il faut le formuler, contre la liberté de navigation.
Qu'est-ce qui se passe là concrètement, Julia Tass, entre la Finlande et l'Estonie ? Et est-ce que par ailleurs, c'est vraiment la Finlande et l'Estonie, ces deux États qui sont en première ligne dans ce conflit ?
Donc ce qui se passe, c'est que factuellement, un câble ou plusieurs câbles ont été endommagés. Et on a retrouvé la trace...
Un câble sous-marin,
ont été endommagés. Et ensuite, on a recoupé les informations satellitaires, notamment de localisation, avec le tracé d'un ou de plusieurs navires. Et on se pose la question de savoir si ce navire ou ces navires sont les fauteurs de troubles et sont les causes de cet accident. Et ensuite, il faut savoir si, au-delà de la responsabilité de ce navire, savoir si c'était intentionnel ou pas. Et là, c'est très compliqué, parce qu'en fait, ça va être du témoignage, mais c'est compliqué de prouver que l'ancre a été intentionnellement déployée pour endommager les câbles. Ça peut tout à fait être une mauvaise manœuvre, une erreur humaine, etc. Et par-dessus ça, ensuite, il faut prouver que c'est un acteur qui a répondu à un objectif stratégique. Et il est donc très facile pour l'acteur étatique en question, dans l'extrait que vous avez mentionné, de dire que c'est une atteinte à la liberté de navigation.
Mais donc très concrètement, dans le chemin de l'enquête que vous décrivez, qu'est-ce que l'on parvient in fine à savoir et à comprendre sur l'intention d'abord de l'équipage du bateau et sur l'attribution ensuite d'un État qui aurait commandité une action stratégique, Julia Tass ?
Vous avez mentionné que ce navire, il avait un pavillon qui n'avait aucun rapport en termes d'État avec la Finlande, l'Estonie ou la Russie.
Saint-Vincent-Grenadines, en l'occurrence, c'est loin.
C'est loin. Et donc là, on rentre dans une nouvelle couche de difficulté qui est la complexité du droit maritime. Le droit maritime, c'est donc le droit qui s'applique à tous ceux qui naviguent. Et vous pouvez prendre, quand vous êtes un bateau, le pavillon d'un État, sachant que la nationalité du capitaine n'est pas forcément la même que la nationalité des marins. Donc vous avez le pavillon, vous avez l'armateur ou le propriétaire du bateau, qui peut avoir une nationalité aussi, les marins, tous avec des nationalités différentes, et le capitaine. Et là-dedans, il faut que vous prouviez que le bateau avait cette course intentionnellement pour porter atteinte à ce câble et qu'il a déployé l'ancre intentionnellement. C'est compliqué. Je vous fais ça, c'est le début de l'enquête. Je laisse Cyril compléter parce que je le vois sourire.
C'est ce que j'allais vous demander, Cyril Cotton, vous qui souriez, donc on va vous confier l'enquête. Comment est-ce que vous la mèneriez vous-même?
Non, en fait,
on commence par quoi dans ce brouillard qui semble absolument épais?
La difficulté, c'est que l'enquête, de toute façon, ne débouchera pas forcément sur grand-chose. Et en fait, on le sait dès le départ. En fait, dans ce genre de situation, ce câble, il est important. Je reviens là-dessus, sur ce câble qui a été coupé entre Finlande et Estonie. C'est donc un câble électrique. Et c'est la première fois quand même dans l'histoire qu'on coupe un câble électrique. Le câble en fibre optique, c'est arrivé. Câble électrique, c'est la première fois. Et là où c'est important, c'est que ça révèle une vulnérabilité qui n'avait pas forcément été prise en compte par l'Union européenne. L'Union européenne, on est passé à on pousse pour qu'il y ait une énergie décarbonée, une électricité décarbonée. Et donc, il y a un certain nombre de pays, notamment du rivage de la Baltique, qui sont passés à des énergies renouvelables, éolien, etc. Et par contre, ce que ça implique qu'il y ait des interconnexions entre les pays.
C'est-à-dire donc une interdépendance bien plus forte.
Une interdépendance. Si je prends un exemple tout bête, le Danemark, par exemple, qui fonctionne beaucoup sur de l'éolien, quand il y a du vent, il va exporter donc son électricité en surplus en Norvège. Et par contre, quand il n'y a pas de vent, la Norvège, qui a une électricité produite par les barrages hydroélectriques, va l'exporter au Danemark. Donc vous avez besoin d'avoir des connexions entre les pays. Énormément de connexions. Allemagne, Norvège, etc. France, Royaume-Uni et autres. Royaume-Uni, Norvège. Et donc, ça crée des vulnérabilités nouvelles. Et ça, c'est ce qui a été bien identifié. Cette coupure de câble électrique, pour le coup, elle est un signal stratégique envoyé, on le suppose, on le sait, mais par la Russie, pour dire, on a cette capacité-là. Vous avez une vulnérabilité à ce niveau-là.
Comment on le suppose? Comment
Parce
on
que,
sait
en fait, si on se replace sur les 10-15 dernières années...
Je vous donne un
années,
exemple. Est-ce que, par exemple, on ne peut pas imaginer, par exemple, que ce serait une action menée par les États-Unis pour nous laisser penser que ce serait la Russie?
Alors, on peut effectivement attribuer... Allez, mettons qu'on attribue aux États-Unis. Ce qui est sûr, c'est que si on prend 15 années en arrière, des coupures de câbles en Baltique, on n'en avait pas. Ou très peu. Un accident, pour le coup, c'était bien identifié. On avait un pêcheur qui disait « Ah, j'ai coupé un câble, mais je me désigne, voilà, j'ai fait une erreur. » Et il n'y avait pas de difficulté. Tout d'un coup, depuis la guerre en Ukraine, on a une série d'accidents, de coupures de câbles. Donc, on peut quand même imaginer qu'il y a un lien avec le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et, le fait que ce pays-là, en particulier l'Estonie, ait été touché, pays baltes, il y a quand même de fortes probabilités que derrière, il y ait une intention russe.
Et donc, mais pourquoi ce ne serait pas les États-Unis pour nous laisser penser que la Russie serait...
Alors après, effectivement, on peut tout imaginer. Mais ce qui est important, en fait, là-dedans, c'est de se dire, on a cette vulnérabilité. Et comment on la traite? Et en fait, on va pas traiter sur... Alors, on va faire l'enquête pour essayer de remonter, savoir qui est derrière, etc. Mais globalement, ça va être très compliqué d'attribuer, on le sait. Et donc, l'action, il va falloir qu'elle porte plutôt sur la défense de ce réseau de câbles, avec des moyens nouveaux, des drones, etc.
On va venir évidemment à la défense. Je voudrais qu'on reste un instant sur cette vulnérabilité que vous décrivez, Cyril Coutancet. Est-ce qu'il y a une vulnérabilité spécifiquement européenne? On entend évidemment parler depuis plusieurs jours, plusieurs mois même, du Groenland, relié au continent au pluriel par deux câbles bien spécifiques, deux câbles uniquement, se dit-on. Est-ce que là, on n'a pas un espace qui est tout à fait vulnérable? Julie Attas, et je vous redonnerai la parole, Cyril Coutancet.
En fait, la question des vulnérabilités, bon, elle se pose pour le Groenland, elle se pose aussi pour les Svalbard, qui sont au nord de la Norvège. Donc, premier point, les câbles sous-marins, que ce soit énergétiques, mais d'autant plus numériques, constituent des vulnérabilités, mais pas seulement pour les territoires insulaires. Pour les territoires insulaires, ce qui est particulier, c'est que souvent, il y en a un, deux, pas beaucoup plus. Et c'est pas spécifique au Groenland ou au Svalbard. Vous avez des îles dans le Pacifique qui ne sont reliées au reste du monde que par un ou deux câbles. Donc, que ce soit accidentel ou intentionnel, vous avez une vulnérabilité. Point. C'est tout. la question de la redondance des câbles se pose, mais pour l'instant, ces vulnérabilités-là, elles sont un fait et elles risquent de rester dans cet état de cause pendant un certain temps parce que ça coûte cher de poser des câbles. Par contre, pour l'Europe continentale, là, il y a très peu de vulnérabilités sur les câbles sous-marins, en tout cas numériques. Il y a une redondance incroyable. Marseille est un point d'attache d'énormément de câbles. Avec le Brexit, il y a eu aussi un report sur l'Europe continentale de certaines voies de communication avec les États-Unis. Donc, il y a très peu de risques à grande échelle quand on porte atteinte à un câble sous-marin numérique. Mais par contre, comme le disait Cyril, c'est un signal stratégique. Et en fait, quand on parle de guerre et de guerre hybride, on parle de lutte des intentions. C'est une lutte entre plusieurs alliés, ou en tout cas entre deux camps. Et cette question de comprendre ce qu'a fait l'autre, est-ce que c'était intentionnel ou pas, est-ce que c'est un signal ou pas, et quel type de signal c'est une lutte des... Beaufre disait les dialectiques des volontés, c'est ça, c'est deux volontés qui s'opposent, et donc il faut comprendre quels sont les outils qui sont à la disposition du camp adverse, et quand est-ce qu'il les utilise. Et c'est là où c'est compliqué, d'une part la guerre hybride, et d'autre part en mer, c'est qu'il faut identifier ce qu'a fait l'autre. Et donc pour l'identifier, il faut avoir des moyens de cartographier, que ce soit l'attribution, ou ne serait-ce que d'être informé de ce qui a pu arriver. Avec l'automatisation, il y a plein d'incidents qui sont gérés de manière automatique à des niveaux très locaux et qui vont pas forcément remonter au cerveau d'un des deux camps.
Cyril Coutancet, un état des lieux sur cette vulnérabilité européenne, sur les câbles, hein, mais pas uniquement.
Alors, vulnérabilité européenne, puis j'élargirai un peu, c'est-à-dire que l'Union européenne, elle a des vulnérabilités sur les câbles, sur l'énergie au sens large, parce que on est encore très dépendant des hydrocarbures, et ça passe par la mer. Mais d'autres pays sont aussi vulnérables. Hein. Quand vous regardez la Chine importe majoritairement ses hydrocarbures du Golfe arabo-persique et puis de certains États qui, là, sont dans une situation compliquée, du Venezuela, assez peu, mais de l'Iran. Et ce qui peut se jouer dans ces deux pays, par exemple, c'est regarder de façon très attentive par la Chine, parce que ça veut dire que, potentiellement, si ces deux pays basculaient du côté américain, ou si les États-Unis avaient une mainmise sur ces deux pays, ces deux robinets d'approvisionnement en hydrocarbures de la Chine qui se retrouveraient dans les mains d'un adversaire potentiel. Donc les vulnérabilités, comme ça on l'a souligné en début d'émission, la globalisation, elle a abouti à une ultra-dépendance à la mer pour l'énergie, pour l'alimentaire aussi, beaucoup, donc à tout niveau. Donc cette ultra-dépendance à la mer, elle occasionne des vulnérabilités. Et on peut essayer de réduire ces vulnérabilités. Il n'empêche qu'on ne va pas vivre en autarcie. On sera toujours dépendant de la mer sur des tas d'éléments. Et donc la question, c'est surtout comment on fait en sorte, un, de les réduire, et deuxièmement, de protéger ce qui nous paraît absolument vital, stratégique. Quand l'Union européenne a développé... a mis en place l'opération Aspides en mer Rouge, c'était précisément pour essayer de sécuriser son approvisionnement qui venait d'Asie via la mer Rouge.
On va revenir sur Aspides en particulier. Une dernière question tout de même, cette fois-ci sur la vulnérabilité de l'adversaire ou de l'ennemi. Est-ce que la flotte fantôme russe, donc cette flotte composée, dit-on parfois, de 600 navires vieillissants, qui sert à contourner les sanctions internationales en matière de transport de matières pétrolières, est-ce que cette flotte fantôme russe consiste aussi, peut permettre d'agir en matière de guerre hybride du point de vue de l'Union européenne cette fois-ci? Est-ce qu'on a un levier d'action contre la Russie là-dessus?
Pour le coup, elle est assez peu hybride, la guerre qui est menée contre la flotte fantôme, parce que si vous regardez à la fois l'opération qu'a menée la France contre un navire qui était plus ou moins de la flotte fantôme, les deux opérations qu'ont menées les États-Unis, c'était tout à fait officiel, pour le coup. Et quand l'Union européenne prend des sanctions par rapport à tel navire, etc., c'est très officiel, pour le coup. Donc on est moins... on peut dire que c'est la Russie... pour moi, on n'est pas tout à fait dans le cas de la guerre hybride, puisqu'on est sur... la Russie a un besoin d'exporter son pétrole, donc elle va chercher toutes les possibilités offertes par le droit maritime pour dépavillonner, avoir des pavillons bizarres, machin, etc., et exporter son pétrole. Et de l'autre côté, Union européenne ou États-Unis, de manière très officielle, combattent cette flotte. Donc on n'est pas dans l'hybridité, pour le coup.
Dans cette guerre hybride, j'y reviens justement, comment fait-on pour lutter, pour s'adapter à des innovations qui, technologiquement, vont croissantes, sont constantes? Est-ce qu'il faut, peut-être pour commencer, dresser un état de l'art des méthodes, des techniques utilisées par l'adversaire, par les ennemis dans leur pluralité, Julia Tass?
Oui, tout à fait. En fait, déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, la première étape, je pense, pour se défendre dans la guerre hybride, c'est de comprendre ce qui se passe. Et je dis ça comme si c'est facile, c'est pas du tout facile, hein. Évidemment, c'est la plus grande difficulté. C'est-à-dire que il faut comprendre les systèmes qui ont été visés, pourquoi ils ont été visés, avec est-ce que c'est un signal stratégique, donc une intention, ou est-ce que c'est pour affaiblir plus globalement. Donc, la première chose, c'est de cartographier. C'est donc d'avoir les moyens de cartographier.
Vous parliez plutôt des données maritimes. Ouais. Concrètement, comment est-ce qu'on les récolte et à quoi peuvent-elles servir opérationnellement ?
Là, donc, pour revenir sur la guerre hybride en mer, la particularité des espaces maritimes, c'est que on a beaucoup plus de mal à savoir ce qui s'y passe. Notamment parce que c'est immense. Donc, c'est très compliqué de suivre précisément qui fait quoi et dans quel but. Donc, c'est aussi pour ça que c'est un champ intéressant pour la guerre hybride. C'est que finalement, on peut y mener des opérations qui peuvent être soit avec comme objectif d'être vu et de constituer un signal. Et on n'a pas encore parlé des flottes de pêche, mais on peut en parler maintenant. C'est-à-dire que Cyril parlait tout à l'heure d'acteurs non étatiques ou d'actions non attribuables. Vous avez aussi une utilisation par la Chine notamment de flottes de pêche qui sont identifiées comme étant chinoises, qui font une activité qui est majoritairement de la pêche, mais qui par leur présence portent un signal au-delà de l'activité de pêche, qui est un signal d'une forme d'appropriation d'un espace maritime.
Par leur simple présence.
Par leur présence très très nombreuse, il faut le dire. C'est des flottes immenses, au même endroit. Donc, quand on a l'habitude d'opérer en mer et qu'on a l'habitude
d'avoir... C'est le cas autour de Taïwan, par exemple, c'est le cas autour des Philippines.
En mer de Chine méridionale, notamment. Et quand vous avez l'habitude de naviguer et de voir très peu, finalement, d'autres bateaux à l'horizon, quand vous avez des flottes de pêche de 300 bateaux alignés les uns à côté des autres, clairement, c'est inhabituel. Donc, c'est un message. Donc, je dirais que l'utilité des données maritimes, dans cette grammaire de la guerre hybride, ça va être de comprendre ce qui se passe et est-ce qu'il y a des activités qui se situent sous le seuil de la conflictualité et qui sont destinées à porter atteinte à un système, ou des activités qui sont une forme de signalement stratégique, ou les deux, en bonus. Si vous pouvez avoir les deux, c'est encore mieux. Et donc, l'utilité de ces données, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe. Et ensuite, de pouvoir agir. Et ça, c'est une deuxième étape plus compliquée, puisque vous pouvez savoir ce qui se passe. Mais ensuite, pour envoyer un bateau ou un avion pour arraisonner un autre navire, ça peut être beaucoup plus long. Et là où les données sont importantes, c'est qu'aujourd'hui, on a une multiplicité de capteurs, donc de moyens de savoir. Mais il faut pouvoir croiser ces données. Peut-être que vous allez avoir un navire, par exemple, qui a un système de localisation, mais qui est volontaire. Donc, il va pouvoir le mettre en marche pour dire aux autres navires, voilà, je me situe ici et j'ai cette activité. Attention, si vous naviguez pas loin, faut qu'on évite de rentrer en collision. Mais si ce navire décide de ne pas mettre en marche ce système de localisation, le seul moyen de savoir qu'il existe, c'est de le voir. Et voir quelque chose qui est loin, c'est pas facile. Donc, vous devez utiliser des satellites.
Donc on comprend, Cyril Coutançais, qu'il y a à la fois une prouesse technique à réaliser pour glaner, pour récolter ces données. Dans le même temps, il faut être aussi capable de les lire, de les interpréter, et que cela implique, du point de vue stratégique, militaire, une coordination maximale entre professionnels d'abord, et on s'en doute, entre États ensuite, entre alliés.
En fait, il y a deux sujets. Il y a effectivement, il faut une mutualisation et avoir l'habitude de travailler entre alliés. Soit dans le cadre de l'OTAN, au sein des marines, ça se fait depuis longtemps. Et donc, il y a une habitude de travailler en commun.
Pour couvrir l'espace gigantesque.
Pour couvrir l'espace gigantesque, exactement. Et il y a un autre enjeu et sur lequel l'Union européenne doit vraiment accélérer. C'est l'enjeu numérique qui était soulevé par Julia, parce qu'il y a la collecte des données. et ensuite analyser ces données, comme vous le disiez. Pour ça, il faut des outils d'intelligence artificielle qui soient performants. Et donc, il faut qu'on soit en capacité de développer ces outils en propre.
Pourquoi il faut des outils d'intelligence artificielle ?
Pour analyser l'ensemble des données. C'est une masse de données absolument colossale. Et pour aller chercher les informations qui nous intéressent pour telle activité, telle opération, etc., il faut qu'on ait des intelligences artificielles qui soient en capacité de le faire. Et là-dessus, c'est un peu tout l'enjeu. En fait, on est aujourd'hui... L'Union européenne, enfin les États membres de l'Union européenne et les marines de l'Union européenne sont au niveau opérationnel tout à fait au bon niveau, que ce soit la marine française ou autre. Cet enjeu technologique, par contre, il ne faut pas le louper. Alors, on a des exercices qui sont faits au sein de l'OTAN avec des drones, où on embarque toute une série de start-up, etc. Il ne faut vraiment pas le louper parce que, pour le coup, si on le rate, c'est un peu comme le moment où il y a eu le passage à la machine à vapeur, etc., au navire à vapeur, au navire cuirassé. Il y a des frontières technologiques comme ça qu'il ne faut pas
rater. Des ruptures technologiques qu'il faut éviter de rater. Je voudrais vous faire entendre Gary Bagot, directeur commercial d'Elware. Il nous présente ce que sa petite entreprise, entre guillemets, développe en termes de défense face à la guerre hybride.
Ce capteur va avoir la capacité, sous l'eau, d'émettre un champ électrique, donc de créer une sorte de bulle électrique, au sein de laquelle on va pouvoir détecter et caractériser des intrusions, des cibles, et offrir un nouveau mode de perception au robot sous-marin. Les drones et ces capteurs permanents pour les infrastructures, ça fait partie un peu des deux armes de dissuasion pour s'assurer qu'ils puissent, à minima, peut-être décourager les intentions malveillantes et éventuellement pouvoir identifier plus rapidement un sabotage en cours. Prendre quelqu'un en flagrant délit de sabotage, aujourd'hui, c'est très difficile dans un contexte de guerre hybride.
Sur la détection, hein, sur les drones offensifs, défensifs, les drones aériens, marins, sous-marins, on constate que le développement de ces technologies sont confiés de plus en plus régulièrement à des acteurs privés, à des petites entreprises, des start-up. Est-ce qu'on n'assiste pas là, Cyril Coutançais, d'abord, Julia Tasson, ensuite, à une forme de privatisation aussi des actions stratégiques en matière de défense ?
Alors, ce qui est frappant, en tout cas en mer, depuis un certain nombre d'années, c'est que effectivement, on a une privatisation de certaines activités.
Bien précise.
Alors, je prends un exemple tout bête, c'est les caps sous-marins qui étaient plutôt dans la main des acteurs étatiques, des types Orange Télécom ou autres. Aujourd'hui, ce marché, il est détenu majoritairement par Google, Meta, Amazon. Donc c'est une privatisation totale, c'est-à-dire qu'on a des acteurs privés qui en fait posent, entretiennent,
Orange,
développent.
Orange privé, vous voulez dire par des acteurs nationaux, par des grands acteurs nationaux.
Voilà, historiquement en fait ça provient de la pose des premiers câbles télégraphiques, donc on avait les opérateurs télécoms en fait nationaux qui s'occupaient de ça. Aujourd'hui, ce sont des grands groupes de ce type-là. Et effectivement, avec l'arrivée de la data, tout ce qui est données numériques, de son analyse, on voit se développer des nouveaux acteurs et ce qui est très bien, hein, en Europe, en France, on a des acteurs comme Unseen Lab, par exemple, qui va analyser les données, justement, en provenance des navires. On a une start-up comme Exel, qui, elle, est plutôt sur les drones. Donc, ils sont en capacité de générer rapidement des réponses, des solutions, par rapport aux grands acteurs historiques, en fait, du naval de défense. Donc, c'est plutôt une bonne chose. La question, c'est, en fait, surtout, au niveau européen, d'être en capacité de faire grandir ces sociétés. Autrement, on risque assez rapidement d'être dans la main soit des États-Unis, soit de solutions chinoises, éventuellement israéliennes. Mais il faut qu'on soit en capacité de garder la main sur ces nouvelles technos.
Ça, c'est d'accord, Juliata, c'est une bonne chose. C'est troublant, je dirais, pour le grand public de comprendre qu'au fond, la défense, une part de la défense nationale repose aussi sur des acteurs privés. C'est naïf, certes, mais c'est troublant.
Je pense que c'est pas une spécificité maritime, malheureusement. C'est-à-dire que là, ce dont on parle, c'est le croisement entre des acteurs privés du monde de la tech. Parce que le sujet, là, c'est la robotisation, c'est l'intelligence artificielle de certains drones, c'est aussi la capacité à capter de la donnée. Donc en fait, c'est le monde de la tech. Et la défense. Et en fait, ça s'observe en mer, mais ça s'observe dans plein d'autres sujets. C'est-à-dire cette capacité du privé à dépasser le public dans l'innovation. Là où il y a finalement un rattrapage, c'est par exemple pour ce qui est des fonds marins. c'est un, la maîtrise des fonds marins est, est un champ en développement croissant dans les marines nationales de guerre, donc. Les acteurs privés ont évolué plus vite parce que, par exemple, ils allaient entretenir des câbles sous-marins, entretenir des plateformes. Et donc, là, c'est un rattrapage qui est particulier à la mer, peut-être, cette idée de s'équiper en interne de certaines solutions technologiques. En tout cas, cette question des big tech et de la défense, elle est valable sur plein d'autres champs. Ce qui est intéressant pour le maritime, c'est que la capacité d'opération en mer, elle coûte très cher. Donc, on peut pas y aller. Voilà, vous pouvez pas commencer. C'est pas comme un logiciel. Vous commencez pas tout seul dans votre coin, dans votre garage. Il faut quand même un petit peu de moyens derrière. C'est là où l'État et où la défense, c'est quand même un tremplin intéressant pour les startups de la tech que de s'appuyer sur la défense. Et peut-être pour rejoindre la discussion de la guerre hybride, il y a un des marins, un officier de marine, qui a contribué à la réflexion sur les données maritimes que j'ai menée l'année dernière, qui proposait que les entreprises de la tech soient des formes de corsaires actuel. C'est-à-dire que le mot corsaire, il parle parce que on se rend compte que c'est un acteur privé qui œuvre pour un État et justement sous le seuil, rendant difficile l'attribution. Et finalement,
qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, c'est pas un pirate, ça, on l'a compris, c'est un corsaire, ouais. Donc il agit pour des raisons plus nobles au service d'un État.
Oui, vous avez une lettre, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas une lettre d'intention, mais une lettre de marque qu'un État donne à un opérateur privé, en l'occurrence un corsaire, pour mener certaines actions, pour en fait freiner son adversaire. Et donc il va s'attaquer à de l'approvisionnement, par exemple. Et il va garder une partie du bénéfice. Donc c'était des relations entre des grands ensembles maritimes et des États qui déléguaient la défense, ou en tout cas l'attaque, si vous voulez, dans ce sens-là. Et la question de la conflictualité en mer aujourd'hui, elle peut passer par ce renouveau de la figure du corsaire qui peut s'appliquer, là en l'occurrence dans notre discussion, sur les acteurs de la tech.
Abside, l'opération Abside que vous avez mentionné un peu plus tôt, Cyril Coutancé, pour évoquer cette opération mise en œuvre par l'Union européenne pour protéger le transport maritime européen en mer Rouge, face notamment aux outils. En quelques mots, quelle forme il a pris? Là, on est dans des actions, je dirais, militaires plus traditionnelles, ou bien il y a une forme d'innovation aussi dans ce qui s'est passé à travers cette opération?
Alors, il y a forcément une forme d'innovation, puisque ce qui était tiré, ça pouvait être aussi bien, contre les navires du transport maritime, c'était aussi bien des missiles que des drones. Donc là, c'était pour le coup, il fallait être innovant pour contrer ces menaces. Ce qui est intéressant dans cette opération, qui s'inscrit dans d'autres opérations...
Mais qui est intervenu concrètement?
Alors, c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire que l'Union européenne, en fait, c'est pas sa première opération navale. Il y a eu l'opération Atalante contre la piraterie en Somalie. Et il y a toujours le même système, qui est plutôt intéressant, parce que ça se fait en dehors du cadre de l'OTAN. Ça se fait uniquement entre des marines des États membres de l'Union européenne, et donc sous une forme de mutualisation des moyens. C'est-à-dire que comme aucune marine de l'Union européenne n'a la capacité de rester en mer Rouge 24 heures sur 24, 365 jours par an, eh bien vous allez avoir une frégate française qui va assurer la veille pendant 6 mois, elle sera relayée par une frégate des Pays-Bas, ensuite hollandaise, etc., etc. Donc c'est un système qui fonctionne, qui a bien fonctionné dans le cadre d'Atalante. Là, on est sur des opérations qui sont quand même plus dures. C'est pas la même chose d'affronter des missiles qui vous sont tirés dessus ou des drones que d'affronter des pirates somaliens. Mais ça montre une capacité d'autonomie, en tout cas de l'Union européenne, et une capacité de faire face à ce type de menaces.
Merci beaucoup à tous les deux de ces éclairages passionnants face à la mer et à l'océan. Julia Tasse, directrice de recherche à l'IRIS, responsable du beau programme Océan, et Cyril Coutancé, directeur du département recherche du Centre d'études stratégiques de la Marine nationale. Je redonne le titre de votre ouvrage, Histoire des empires maritimes, c'est chez CNRS Éditions. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission, Juliette Mouélic, Stéphanie Villeneuve, Diane de Vancé, Antoine Héral. À suivre après le journal Lumière sur un tout autre sujet, le bicentenaire de la photographie. La photographie survivra-t-elle à l'intelligence artificielle ?